Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Un éclairage un petit peu particulier. Oui, un petit peu particulier parce que c'est vrai, souvent à l'Académie des sciences morales et politiques, nous traitons de sujets, allez, on va dire un petit peu théoriques, de manière un peu dérisoire aussi intello, c'est vrai. Alors non pas que le sujet n'est pas sérieux, parce qu'il est sérieux, il porte sur l'éducation, donc tout ce qui touche à l'éducation, naturellement, nous fait entrer dans un domaine, un domaine de l'analyse, du sérieux, mais aussi du témoignage et de ce que vivent au quotidien à la fois ceux qui enseignent et puis ceux qui sont adressés à cet enseignement. Alors avec vous, Sipora Petit-Janser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lettres, enseignante, mais vous enseignez aussi l'histoire, hein, les lettres, l'histoire. Vous êtes très multicarte en fait, hein, déjà.
C'était pas ma vocation à enseigner l'histoire. C'est vraiment parce que je suis dans une structure particulière où on m'a demandé d'enseigner une matière supplémentaire. Mais ma formation, c'est les lettres.
Voilà, une structure particulière. J'ai envie de dire que vous avez dit le mot, bien sûr. Structure particulière, l'école de la dernière chance, un an en classe relais. C'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions Stock. Vous allez tout nous dire, bien sûr, sur les classes relais, sur la façon dont l'enseignement pilote ce type d'initiative. À quoi correspond une classe relais? Ce que l'on y fait? Pourquoi? Comment? Dans quel dessin? J'ajoute que vous avez reçu le prix, l'un des prix de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est le prix Louis Cros, et qui récompense une œuvre éditée ou un travail universitaire dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et s'ils vous ont choisi, c'est précisément parce que votre ouvrage est concret, renvoie des témoignages, renvoie des situations vécues. Ça vous a surpris d'abord d'avoir été choisi?
Ça m'a surpris parce que je pensais qu'il choisirait un ouvrage qui était beaucoup plus théorique. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas dans cet ouvrage. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment livrer un témoignage sur ces enfants-là, donc de classe relais. Alors, je vais vous expliquer après ce que c'est qu'une classe relais. Et j'ai été un petit peu surprise d'être choisie parce que j'ai essayé de mettre en avant les enfants et pas du tout de choses théoriques.
Voilà, donc c'est la pratique qui est vraiment récompensée.
C'est du témoignage vécu.
Voilà, au plus près du terrain et d'un terrain qui est réputé difficile.
Les classes relais, vous voulez dire? Très difficile, mais oui, parce que plus dur, je ne sais pas, mais donc les classes relais, ce sont des classes qui ont été créées à titre vraiment expérimental en 84 ou 85. Mais alors, c'était très, très confidentiel. Allez, on s'est tant reculé. On en entendait très peu parler. C'était comme des petits laboratoires. Et ça a été officialisé finalement par le ministère en 1998. Donc c'est encore assez jeune. Alors maintenant, on commence à en parler davantage. Les classes relais, comme leur nom l'indique, ce sont des relais entre le système classique et puis la rue, la marginalisation.
Pour faire simple, c'est là que l'on met les élèves dont on ne sait pas quoi faire dans le système classique.
Dont on ne sait pas quoi faire parce qu'ils sont atypiques et parce qu'ils sont surtout en voie de déscolarisation. Et c'est ça le but des classes relais, c'est de les accueillir, de les réparer, si on peut dire, de les remotiver et de les réinsérer dans le système.
Quelle image prendriez-vous? C'est un filet?
Un sas.
Un sas?
Oui. C'est intermédiaire. On essaye de les réinjecter vraiment, alors pas forcément dans le système scolaire, mais dans le tissu social en tout cas.
Nous n'allons pas citer de noms. Enfin, les noms qui sont dans votre ouvrage sont des noms qui, somme toute, n'ont pas d'importance puisque
c'est fictif.
C'est fictif, voilà. C'est dans le Val-de-Marne. C'est la seule chose que l'on peut dire parce que l'éducation nationale est sourcilleuse à l'idée de divulguer, ça peut bien se comprendre, des informations à caractère privé. Vous avez choisi cette affectation. C'est un petit peu curieux. Vous le dites dans votre ouvrage. Vous avez été amené dans une classe relais puis vous avez désiré y rester.
Oui, alors la classe relais, je l'ai choisie. Hein. Moi, j'ai commencé par enseigner en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis plus précisément, dans un établissement classé ZEP, prévention violence, et qui avait en plus une classe SAS. Alors la classe SAS, le principe, c'est que c'est une classe qui est au sein de l'établissement et qui accueille déjà des enfants qui sont en décrochage scolaire. Et ça m'a tellement plu, la liberté, la possibilité d'innover sur le plan pédagogique dans cette classe SAS, que j'ai choisi après d'enseigner en classe relais. Donc j'ai demandé le poste et je l'ai eu. Mais à mon avis, on n'était pas très nombreux à l'avoir demandé. Donc...
Et ça s'est fait de quelle manière? Rapidement?
Pour obtenir la classe relais.
Oui.
Mais en fait, c'est ce qu'on appelle un poste hors barème. Alors, vous savez que dans l'éducation nationale, il y a tout un système de points. Alors, on a des points. Plus on a d'ancienneté, plus on a de points. Si on est marié ou paxé, on a des points. Si on a des enfants, on a des points. Et c'est grâce à ces points-là qu'on obtient la mutation voulue. Et ce poste-là, en classe relais, il est hors barème. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2,5 ou 3 millions. C'est pareil. Ce qu'on regarde, c'est le parcours du candidat, ce qu'il a fait, ce qu'il a le profil pour enseigner dans ces structures atypiques.
On est sélectionné sur quels critères ?
Je pense que c'est l'expérience qu'avait l'enseignant auprès d'un public un petit peu difficile. Moi, j'avais déjà enseigné en ZEP et puis j'avais enseigné en classe SAS, donc j'avais le profil.
Oui, mais vous n'êtes pas la seule.
Je ne sais pas si je n'ai pas été la seule à demander le poste. Hein, parce que les classes,
à ce point ?
Oui, les classes relais ont quand même une réputation assez exécrable. Donc... On ne saura jamais si j'étais la seule ou pas.
Combien y en a-t-il en France de classes relais ?
Il doit y en avoir, là, je ne saurais pas vous dire précisément, mais je dirais 150 à 200. On est 5 dans le Val-de-Marne, et sur toute la France, ça doit être ça à peu près.
150 à 200, ça commence à faire quand même, c'est
oui,
une institution.
Oui, ça se répand là, absolument.
C'était la volonté des rectorats de développer ce type d'infrastructure ? Pas d'hypocrisie hein, entre nous, si je puis dire. Ce sont des infrastructures qu'on a volontairement créées en marge de l'école pour essayer de délester l'école classique des éléments les plus turbulents. Ou bien c'était vraiment une initiative destinée, comme vous l'avez dit, à servir de sas, à faire monter ceux qui ont le plus de mal.
Mais c'est les deux, je pense. C'est les deux parce que, évidemment, le discours officiel, c'est resocialiser et éviter la marginalisation des enfants qui sont en train de... On appelle ça les décrocheurs, les enfants qui sont absentéistes et qui décrochent. Donc ça, c'est l'objectif officiel. Maintenant, officieusement, c'est vrai que les classes SAS et les classes relais, elles sont destinées aussi à soulager quand même les classes d'origine. C'est vrai. Parce qu'il suffit parfois d'un élément très perturbateur pour empêcher une classe de fonctionner.
Mais pourquoi une classe ne fonctionne pas ? Parce que c'est un élément violent ou un élément qui ne suit pas ?
Ça peut être les deux en fait, parce que le critère d'admission en classe relais, c'est l'absentéisme, mais c'est un mot qui est très élastique, parce que on peut être absentéiste parce que déjà certains enfants sont tombés dans la délinquance, enfin ils sont déjà dans la délinquance avancée, donc du coup quand ils sont en classe, ils sont tellement ailleurs dans un autre monde que ou bien ils suivent pas parce que il y a longtemps qu'ils ont quitté cette réalité là, ou bien ils sont absolument infernaux parce qu'ils n'ont pas de barrières. Ils n'ont pas d'idée de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, quoi. Ou alors ils sont carrément rebelles et ils le font exprès.
Dans le principe, l'éducation nationale postule l'idée de l'égalité des chances et de l'égalité des enseignements.
Oui, oui.
C'est une forme d'aveu d'échec, de reconnaissance que chacun ne peut pas suivre de la même manière.
Aveu d'échec, mais du coup une solution mise en place pour pallier à ces difficultés-là.
Donc quand même, ça veut dire que l'enseignement ne peut pas convenir à tout le monde de la même manière.
Oui, exactement. Et c'est vrai que je trouve que l'enseignement en France est très normatif. Et pour tous les élèves qui sont un petit peu différents, c'est un petit peu impitoyable. Et c'est pour ça que c'est bien les classes relais, parce que c'est quand même une place qui est faite à des enfants qui sont différents.
Alors voilà pour le décor général, si je puis dire. Maintenant, il faut que vous nous parliez de votre parcours en classe relais. Quelle est la journée type, par exemple ?
Alors déjà, en classe relais, les élèves ont quand même un emploi du temps qui est très allégé. Hein, parce qu'en classe banale, on appelle ça des classes banales, hein, c'est pas insultant, mais ça s'appelle comme ça. En classe banale, ils ont 30 à 35 heures de cours par semaine. Et en classe relais, c'est 20 à 22 heures. Donc déjà, c'est beaucoup plus, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus léger.
C'est un choix.
C'est parce que c'est des élèves qui ont du mal à supporter l'école. Hein. On a beaucoup de cas d'élèves qui ont des phobies scolaires aussi. Donc,
des phobies scolaires
qui vraiment se sentent physiquement mal avant d'entrer en classe. Il y a notamment le cas d'un élève dont je parle dans le livre, Stanley. Lui, vraiment, avant d'entrer en classe, il devenait tout blanc, il avait envie de vomir, à la limite de faire un malaise. Et c'est vrai que ces enfants-là, déjà, s'ils peuvent pas suivre 35, ils peuvent pas suivre 35 heures, c'est pas la peine de les remettre dans une structure en leur donnant à nouveau 35 heures de cours. Il n'y a pas toutes les matières qui sont représentées, sinon en classe relais. On a les matières de base, donc le français, l'histoire géo, les mathématiques. Il y a également de la technologie, du sport et des arts plastiques. Et c'est vrai que je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas d'anglais, notamment. Et après, si les élèves sont réorientés, par exemple en BEP, CAP, en lycée professionnel, ça va leur manquer. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage.
Donc, pas toutes les matières,
non.
Moins d'heures, toutes les classes
C'est niveau, alors les classes relais, c'est niveau 4e, 3e uniquement.
Niveau 4e, 3e. Oui. Ça aussi, c'est un choix qui correspond à quelle réalité, à quelle ambition ?
Ben c'est, en fait, c'est avant l'orientation. C'est l'idéal pour un élève de classe relais, c'est surtout de ne pas retourner au collège. En fait, c'est de l'orienter, de l'aider à trouver une voie professionnelle, parce que ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'aider ces enfants à choisir un métier. Donc la classe relais, c'est quand même une structure qui est assez souple. Et il y a beaucoup de semaines où les élèves sont en stage, et ça leur permet de confirmer ou au contraire d'infirmer l'idée d'orientation qu'ils avaient peut-être.
C'est pour contourner le collège unique.
Au moment d'entrée, oui. Oui.
En fait.
Oui, c'est vrai.
Qui est quand même un dogme de l'éducation nationale.
Oui, mais bon, on voit que ça ne marche pas.
Oui. Donc c'est une façon un peu de contourner les choses. Alors, votre journée type ?
Alors, la journée type, ça dépend des années, j'ai envie de dire. Ça dépend des... Moi, ça fait 3 ans maintenant que je suis en classe relais. C'est ma 3e année cette année. On a eu des promotions qui étaient très, très sages, voire un petit peu apathiques. Donc, ils attendaient un peu que les cours se passent.
Oui, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs. D'une année sur l'autre.
Oui, ça change complètement. L'année avant que j'arrive, c'était d'une violence absolument inouïe. Il s'est passé des choses, des épisodes de violence invraisemblables.
Bon, mais contre les professeurs ?
Contre les élèves, les uns contre les autres un petit peu, mais surtout contre les enseignants. Oui. La collègue de techno apparemment a été menacée avec un objet contondant. C'était des insultes à longueur de journée, des coups de pied dans les portes, les murs. Là, c'était le quotidien, c'était la journée type des enseignants avant que j'arrive.
Mais quand vous êtes arrivé, justement, il me semble qu'il y avait un flottement assez grand quand même, un certain flottement dans l'institution, dont certaines personnes avaient un petit peu baissé les bras, non ?
Mais de toute façon, les collègues qui étaient là avant moi sont partis tous les deux. Donc moi, j'ai récupéré la structure un peu comme ça, et puis j'ai essayé d'en faire quelque chose. Mais en tout cas, l'anecdote que je peux raconter, c'est que le premier jour où je suis arrivée en classe relais, donc c'est un petit, j'ai envie de dire, un petit baraquement. C'est deux préfats qui sont posés au milieu de nulle part. Donc,
oui, déjà le coin n'est pas très bien choisi. Hein.
Oui, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va déménager. On reste dans la même ville, mais on va avoir un vrai local en dur, digne de ce nom. Donc déjà, c'est un peu plus cohérent quand on veut réinsérer des élèves. Mais donc, il y a 3 ans, c'était déjà ce vieux préfabriqué pourri, posé au milieu de nulle part. Et je suis entrée dans la petite cuisine qui sert de salle des professeurs. C'est comme une petite maison en préfabriqué. Et donc, dans cette cuisine, il y a un tableau blanc. Et dessus, au feutre noir, il y avait marqué « Ici, j'ai souffert, vous souffrirez aussi ». Voilà, c'était le...
Voilà, bienvenue à bord.
Voilà, c'est ça, bienvenue. C'est le témoignage qu'avait laissé l'enseignant qui était là avant moi.
Bon, on marque une première pause, si pour rappeler j'en sers.
Vous écoutez Canal Académie.
L'école de la dernière chance, un an en classe relais avec Sipora Petit-Janser, donc l'auteur de ce livre de témoignages qui a reçu le prix Louis Cros de l'Académie des sciences morales et politiques aux éditions Stock. Avant de reprendre notre propos, Sipora Petit-Janser, j'aimerais m'attarder sur votre prénom tout simplement.
Oui.
Sipora, Sipora. C-Y-P-O-R-A.
Oui, alors Sipora, en fait, mais c'est un personnage qui devrait être connu au même titre que Sarah ou Rebecca, parce que c'est un personnage de l'Ancien Testament. C'est la femme de Moïse, en fait, dans l'Ancien Testament. Et ça veut dire petit oiseau en hébreu, en fait, Sipora. Enfin, Sipor, c'est le petit oiseau, et Sipora, c'est la petite oiselle.
C'est comme cela qu'ils vous appellent,
les
vos élèves ?
Non, ils disent madame.
Pas de familiarité.
Non. Mais très souvent, il y a le tu qui leur échappe parce que. Mais là, c'est pas méchant. On a beaucoup d'enfants qui sont d'origine maghrébine ou africaine et pour eux, le tu, c'est pas forcément un manque de respect. Mais ceci dit, je sais distinguer le tu qui échappe comme ça, qui est pas méchant, du tu.
Parce qu'ils vous voient ou ils vous tutoient ?
Ils me disent vous. Mais de temps en temps, quand il y a un petit tu qui leur échappe, je leur dis non. On dit vous.
Vous m'avez dit entre 4e et 3e, c'est ça avec la classe ?
4e, 3e, ils ont 15 ans en moyenne, les élèves qu'on reçoit.
15 ans. Certains ont beaucoup de retard ? Et on 17 ans par exemple?
Oui, ou... c'est ça, ça va juste 16, 10, ça va jusqu'à 17. Il est arrivé aussi qu'on ait des élèves de 5e, mais ça c'était tout à fait anormal et je dois dire que il y a certains principaux qui sont très bien, qui montent des dossiers sérieux, qui nous envoient des élèves et qui les suivent toute l'année, il y a quelqu'un de l'établissement d'origine qui les suit, mais c'est arrivé aussi qu'on ait des principaux qui se débarrassent quand même d'un élève ingérable et c'est comme ça qu'on a reçu des élèves de 5e qu'on n'aurait pas dû avoir normalement.
Alors, votre journée type, donc, vous êtes arrivé en ce jour où il était inscrit sur le tableau. Ici, j'ai beaucoup souffert. Vous allez aussi beaucoup souffrir, c'est ça, grosso
modo ? Ici, j'ai souffert, vous souffrirez aussi.
Voilà.
Mais j'ai pas souffert, hein, je vous rassure, ça va.
Ça, c'était il y a 3 ans.
Ça, c'était il y a 3 ans, c'est ça.
Bon, alors, comment avez-vous pris la température ? Comment avez-vous réussi à vous imposer dans ce lieu aussi, où j'imagine qu'il est peut-être aussi assez masculin, quand même ?
Oui, alors, en effet, on est 5 classes relais dans le département et on est 3 femmes sur l'ensemble. Oui, c'est un milieu qui est assez masculin. C'est vrai, mais bon, ça me dérange pas. C'est pas un problème et je crois que j'ai commencé à prendre possession de la classe relais en prenant possession du lieu. J'ai mis des affiches, j'ai décoré avec des plantes, tout ça, j'étais pleine de bonnes intentions. Malheureusement, tout ça, ça a été détruit dans tous les sens du terme en janvier 2004 parce qu'on a subi un grand cambriolage. Alors on soupçonne fortement l'une de nos élèves d'être à l'origine du méfait. Mais la classe relais a été entièrement détruite à l'intérieur, le faux plafond détruit, les cartes mères des ordinateurs arrachées, un certain nombre de documents détruits. Toute ma jolie décoration est partie à la poubelle.
Vous n'êtes jamais saisie par le découragement ?
Si, si, mais ça ne dure pas en fait. Si, si, il y a des moments où on est découragé, bien sûr. Mais alors, pour moi, ce qui a été peut-être l'année la plus difficile, c'était pas l'année du livre, 2003-2004, c'est l'année dernière, 2004-2005. Là, on n'a pas eu tellement de problèmes de violence, beaucoup moins en tout cas que la première année. Mais on a eu affaire à des élèves qui étaient d'une inertie totale, qui ne voulaient pas travailler. Alors, ils arrivaient en classe, ils se posaient sur une chaise à l'accueil, donc l'endroit entre les deux salles de cours, et ils ne faisaient rien. Et on n'arrivait pas à les motiver. On a passé comme ça des journées complètement ubuesques, mais absurdes, devant des enfants, enfin des adolescents, assis sur leur chaise comme ça et refusant de faire quoi que ce soit.
Privés de toute volonté de travailler, de motivation.
Voilà, aucune motivation, un refus vraiment de travailler énorme. Et alors ça, j'avoue que j'étais beaucoup plus désarmée face à cette absence de motivation que face à la violence. Parce que la violence, on a une prise, on peut en faire quelque chose. Au moins.
Je reviens toujours à ma journée type. Bon, vous entrez en classe, les classes sont disposées de la même manière. Il y a un tableau, il y a une estrade, il y a un bureau.
Alors,
on est face au professeur, on est en fer à cheval. Comment ça se passe ?
Non, alors donc on a 2 salles de cours dans ce préfabriqué qui ont les mêmes dimensions l'une et l'autre. Il n'y a pas d'estrade parce qu'à l'origine, c'était pas une école en fait. C'était un local de la NPE. Alors là aussi, c'est tout un symbole.
Tout
parce
un symbole,
que
oui.
Un ancien local de la NPE situé entre la déchetterie et le crématorium, en face d'un squat.
Beaucoup de bruit.
Très bruyant, avec des camions poubelles qui font des allers-retours sous nos fenêtres. Et c'est vrai que c'est scandaleux d'avoir mis des enfants déjà décrocheurs dans un lieu aussi absurde et décourageant.
Pour donner le visage d'une classe, comment avez-vous fait ?
Pour donner le visage d'une classe, ben quand même, quand on est à l'intérieur, la pauvreté de l'endroit saute beaucoup moins aux yeux parce qu'à l'intérieur, c'est même un petit peu cosy, un petit peu mignon. Il faut juste faire abstraction des camions poubelles qui passent sur le côté. Mais sinon, c'est pas désagréable. On voit un petit peu de verdure. Et puis, l'intérieur, bon, il n'y a pas d'estrade, mais ça ressemble à une salle de classe normale avec un bureau pour l'enseignant, un tableau blanc, des tables, des chaises.
22 heures de cours, vous nous avez dit tout à l'heure. Combien d'élèves par classe ?
Alors, normalement, on peut accueillir officiellement jusqu'à 12 élèves par classe relais. Maintenant, ça n'arrive jamais. La première année où j'étais là, donc l'année du livre, on a eu 10 élèves. L'année dernière, on en a eu 8. Et alors, cette année, j'espère que vous êtes assis, mais on en a 2. Alors, ça ne va pas durer.
2.
On a deux élèves, un garçon et une fille, qui sont absolument adorables tous les deux. Ça ne va pas durer. Hein. En février, il y a une nouvelle commission qui se réunit. On aura de nouveaux élèves, mais... Bon.
2, ce sont les cours particuliers.
Voilà, c'est ça. Alors c'est merveilleux pour ces enfants-là parce qu'en plus ils sont en demande. Donc on peut vraiment effectuer un suivi personnalisé de chacun. Mais c'est vrai que c'est pas très rentable. Ça fait vraiment beaucoup de moyens mis en œuvre pour un petit effectif.
Comment expliquer que l'on passe de 10 à 2 ? C'est tout simplement parce que le fait d'envoyer un élève en classe relais ne se justifie plus dans le département ? Il n'y a plus de
J'ai beaucoup de mal
de
à
candidats.
Je ne sais pas pourquoi. On a eu beaucoup moins de dossiers cette année que les années précédentes, mais je ne saurais pas vous répondre. Si ce n'est peut-être que nous, sur notre secteur géographique, on est deux classes relais au lieu d'une. Donc si on avait été dans le même cas que les autres classes relais du département, on aurait eu 7 à 8 élèves. Mais là, en fait, il y avait 8 dossiers qu'on s'est partagés entre les deux classes relais. Voilà.
À 12, évidemment, on ne fait pas le même travail qu'à 20 ou 30. Le seuil à partir duquel les classes relais ne sont plus gérables?
Alors, avec mon collègue, justement, on en parlait récemment et on a dit 2, c'est trop peu, c'est même franchement ridicule, mais à partir de 8, c'est trop. C'est trop, pourquoi ? Parce qu'avec ces élèves-là, c'est trop. Parce que c'est des élèves qu'il faut vraiment constamment traîner derrière soi, qu'il faut remotiver. C'est des élèves qui sont souvent rebelles, qui sont violents, qui sont difficiles. Et alors, on a trouvé que le chiffre idéal, c'était 6 ou 7.
Ils sont assis les uns à côté des autres ou
oui.
Un par table ?
Ils ont chacun leur petite table individuelle disposée dans la classe.
Des cahiers, des livres,
des
comment
cahiers,
ça se passe les fournitures ?
Les fournitures, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des manuels de 3e en histoire et en français du CDI et quelques manuels de 6e, 5e, alors ils sont très vexés. Quand je leur sors le manuel de 6e, 5e, ils ne veulent pas l'ouvrir, ils ne sont pas contents. Donc on n'utilise que les manuels de... Je trouve ça assez mignon, assez touchant quand même. Hein. Donc,
une certaine fierté ?
Oui, beaucoup de fierté. Mais je leur dis, mais vous avez raison, vous êtes en 4e ou en 3e, on va prendre les manuels qui correspondent à votre âge.
C'est un signe qu'ils ne disent pas non au système, mais qu'ils voudraient plutôt s'y intégrer et réussir. Vous l'interprétez comme ça ?
Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont violents et en refus de travailler parce que s'ils se mettent à travailler, alors là, ça risque de les mettre face à leurs difficultés. Et c'est ça qui est difficile à vivre pour eux.
Là, on entre dans un cheminement psychologique.
Oui, hein. Oui. Et d'ailleurs, ce serait bien vraiment si on avait un psychologue avec nous.
Vous n'avez pas de psychologue
pour nous deux. Certaines classes relais en ont. Nous, on a fait une demande qui n'a pas encore abouti. Je pense que l'année prochaine, certainement, on aura une aide adaptée. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses que nous, enseignants, on n'est pas forcément formés pour comprendre. Mais en tout cas, j'ai compris, moi, que beaucoup de violences venaient de la peur de ne pas réussir, de mal faire.
La classe relais, finalement, ça ressemble à une classe... comme les autres, sauf que il y a moins d'élèves,
voilà.
C'est plus personnalisé, on est dans un cadre avec des personnes beaucoup plus volontaires d'un côté, vous,
oui.
Les enseignants,
oui, oui.
Hein, qui prenez vraiment votre travail comme une vocation, et puis des élèves évidemment un peu plus durs, sinon ils n'y seraient pas. Est-ce qu'il y a des élèves qui sont candidats pour aller en classe relais ?
Oui, ça arrive, ça arrive, et alors mais pour le moment j'ai vu que des filles. Alors bon, je veux pas être sexiste, hein. J'ai juste remarqué ça, peut-être que c'est un hasard, mais cette année on a une élève qui a demandé d'elle-même à venir en classe relais, qui en est très contente parce qu'elle était consciente, il faut une certaine maturité, hein. Elle était consciente d'avoir besoin d'un suivi personnalisé, et puis elle avait envie, disait-elle, de se couper de ses fréquentations habituelles et se couper de son milieu scolaire d'origine. Voilà, et c'est arrivé l'année précédente aussi, une élève qui était demandeuse, et dans les deux cas, ça donne des très bons résultats.
Après la classe relais, on fait un an dans une classe relais ?
Un an, voilà, c'est ça,
une
année scolaire.
On revient dans son lycée d'origine, ou dans son collège, dans son établissement, plutôt pour être précis, collège. Comment ça se passe ?
Alors, on essaye de faire en sorte que les élèves ne reviennent pas dans l'établissement d'origine, parce que l'expérience a prouvé que c'était catastrophique. Parce que la classe relais, comme je vous ai dit, c'est des horaires aménagés, c'est beaucoup plus souple, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas de... Si les élèves tiennent qu'une demi-heure, et ben tant pis, on fait un cours d'une demi-heure. Si au bout d'une heure et demie, ils sont encore en train de travailler, ben on les laisse. Enfin, c'est beaucoup plus souple. Et c'est vraiment difficile de revenir dans le collège d'origine après ça. Tous les résultats qu'on a sont catastrophiques, donc on essaye de les orienter. En fait.
Pardonnez cette question un petit peu naïve, mais à première vue, dans les structures telles que la classe relais, on pourrait imaginer que ce qui se justifie, c'est un petit peu plus de contraintes, un petit peu plus d'encadrement, donc des horaires plus rigoureux, leur apprendre la discipline. Récemment encore, le président de la République a suggéré la restauration d'un service civil volontaire avec des horaires, une certaine discipline. C'est cela qu'il faut leur donner ou bien la souplesse
C'est les deux, en fait.
L'école à la carte.
C'est les deux. Pour certaines choses, beaucoup plus de souplesse, notamment pour les horaires. Parce que je pense qu'il faut quand même respecter le rythme des élèves. Et il y en a vraiment, au bout d'une demi-heure, qui ne peuvent plus. Et parfois, comme je vous ai dit, ils peuvent tenir 2 heures. S'ils sont vraiment passionnés, ils peuvent tenir 2 heures.
Et pour toutes les matières, ils ne peuvent plus.
Ça dépend. Après, il y en a qui ont plus ou moins de goût pour une matière ou pour une autre. Mais en revanche, sur d'autres choses, en effet, on est extrêmement rigide. Là, c'est l'inverse. Par exemple, on essaye d'être intraitable sur les règles de vie en société, enlever sa casquette, enlever son blouson, s'asseoir correctement, parce que ça, c'est des choses dont ils auront besoin toute leur vie.
Presque un uniforme, non ?
Oui, pas un uniforme, mais enfin un comportement qui soit socialement correct.
C'est là que c'est le plus dur de faire avancer les choses ou bien ils l'acceptent facilement?
Ah, mais ça peut durer une heure entière pour enlever un blouson, vous savez.
Une heure pour retirer un blouson?
Oui, mais ça dure pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est un combat au début, puis après, une fois qu'ils ont baissé les armes, une première fois qu'ils ont enlevé le blouson, bon, ça va. Ils l'enlèvent. Mais ça, on insiste énormément là-dessus.
Donc blouson, casquette, socialement présentable.
Même si ça a l'air dérisoire, parce qu'en fait, quand on y pense, on se dit qu'est-ce que ça peut bien faire, qu'ils aient leur blouson ou pas leur blouson, on s'en fiche. Mais non, ça a son importance, parce que c'est vraiment symbolique. Un élève qui vient en cours, qui n'enlève pas son blouson, c'est déjà un refus de coopérer.
Et il y a un attachement presque identitaire en plus à son apparence.
C'est vrai.
Dans ces cas-là. On va marquer une seconde pause avec vous, Sipora Petit-Janserre.
L'écrivain Frédéric Vitoux de l'Académie française se confie à Canal Académie. Il raconte sa passion pour Céline, sa biographie de Rossini, son œuvre de critique, de romancier, de scénariste. Frédéric Vitoux, une vie littéraire bien remplie, dans l'émission En habit vert sur Canal Académie.
L'école de la dernière chance, c'est le thème de cet éclairage. Un an en classe relais, dont Sipora Petit-Janserre nous expliquer les tenants, les aboutissants, la façon dont elle s'occupait de cette institution de l'éducation nationale. Il y en a 200 en France, vous c'est dans le Val-de-Marne, donc 200 ça représente déjà quand même une certaine force, si je puis dire. Est-ce que vous avez déjà rencontré vos collègues qui travaillent en classe relais? Vous vous réunissez à l'échelle de toute la France?
Oui, non, alors à l'échelle de la France non, mais à l'échelle académique et en tout cas départementale, oui, on se retrouve régulièrement à l'inspection académique et je dois dire que ça fait beaucoup de bien de partager des expériences avec des collègues parce qu'il y a quand même des petits moments de découragement où on se dit mais à quoi bon? Et puis ça passe, c'est vrai que c'est bien de partager.
Qu'est-ce qu'on échange par exemple?
Ça peut être des pratiques pédagogiques. Avec un collègue de français, par exemple, on peut échanger des cours, des idées purement pédagogiques. Et puis, ça peut être aussi des récits d'échecs, des récits de réussite. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul quand même.
Vous avez des récits de réussite ?
Des récits de réussite, moi je pense à une anecdote qui est dans le livre. C'était à la fin de l'année, en juin, j'ai demandé aux élèves qu'est-ce que ça vous a apporté ce passage en classe. Est-ce que ça vous a apporté d'abord quelque chose et si oui, quoi? Alors il y en a un qui m'a répondu, moi j'ai appris à foutre le bordel, donc assez intéressant comme réponse. Un autre qui m'a dit j'ai appris à travailler. Et c'était vrai, c'est vrai. Y en a un autre qui m'a répondu, moi j'ai appris, alors c'était un élève qui était non francophone à l'origine, un marocain, adorable, qui m'a dit, mais moi j'ai appris à parler en français mieux, à m'exprimer mieux, à conjuguer le présent, bon. Et puis il y a une élève, ça m'a vraiment frappé l'expression qu'elle a employée, elle m'a dit, moi j'ai appris à aller à l'école. Et c'est ça, c'est exactement ça. C'est une élève qui était vraiment hautement absentéiste dans son collège d'origine. Et quand elle venait, elle était exécrable. Et là, elle n'a pas manqué une seule fois. Elle est venue tous les jours, jour après jour, avec plus ou moins de sérieux. Je ne vais pas brosser un tableau idyllique, mais elle a appris des choses et elle a vraiment, surtout, réappris à aller à l'école. Et ça m'a. La pertinence et la justesse et la simplicité en même temps de cette expression, ça m'a touchée.
Et pourquoi la chose a-t-elle fonctionné avec elle et avec vous, dans le cadre d'une classe relais, et pas au lycée, dans l'établissement, pardon, puisque là on est dans les classes 4e, 3e, dans l'établissement auquel elle se rendait?
Parce qu'il y a certains élèves qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux de près. Je pense qu'elle avait besoin d'attention, elle avait besoin d'une attention personnelle et particulière. Et puis aussi, il y a autre chose, c'est qu'en classe relais, comme on a 12 élèves maximum, si l'élève est absent ou en retard, on téléphone tout de suite à la famille. Alors ça, c'est très efficace contre l'absentéisme. Parce que c'est vrai que dans un collège banal, le CPE, le responsable de la vie scolaire, ne peut pas se permettre de téléphoner à tous les parents des élèves absents tous les matins et toutes les après-midi. Ce n'est pas possible. Alors que nous, on le fait. Et ça, par la force des choses, c'est vrai que c'est efficace.
Donc ce sont les failles de l'institution, parce que là, vous mettez le doigt sur les failles de l'institution. Et aussi des professeurs qui n'ont pas le temps de s'occuper de tous les élèves.
C'est pas les professeurs, mais c'est l'administration de l'établissement. Et même si l'établissement est très sérieux, et même si le responsable de la vie scolaire est très compétent, il y a matériellement des choses qu'on n'a pas le temps de faire, tout simplement, parce qu'on a 500 élèves à gérer.
Et on part du principe que tout le monde suit ou doit suivre.
Oui. C'est pour ça que je parlais d'une école assez normative, quand même.
Ça, vous le regrettez?
Il y a les classes relais, heureusement.
Vous êtes combien de professeurs ?
Alors, on est deux professeurs à temps plein, deux professeurs certifiés, donc on a le CAPES, mon collègue qui enseigne les mathématiques et l'informatique, moi qui enseigne les lettres et l'histoire. On enseigne chacun 18 heures. Sinon, donc il y a ma collègue de sport 2 heures, ma collègue d'art plastique 1 heure et le collègue de technologie 2 heures.
Avec chaque fois 12 élèves, vous les avez combien de temps dans la journée ? Combien de temps avez-vous la même classe ?
Alors, ben, moi, j'ai qu'une classe, en fait. C'est presque comme une école primaire pour adolescents décrocheurs. C'est un peu étrange, hein. C'est intermédiaire comme structure. Mais moi, par exemple, je vais les avoir, je prends la journée du lundi, 2 heures le matin, 1 heure l'après-midi. Après, le mardi, je les aurai 2 heures, après 1 heure le mercredi. Bon.
Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Parce que les professeurs insistent souvent sur cet aspect-là, la préparation, la fameuse préparation des cours, la correction des copies. Est-ce un aspect du travail dont vous êtes quelque peu délesté par le fait même que vous faites du travail personnalisé ? Vous ne souffrez pas, par exemple, de ces cadences un peu infernales dont se plaignent les professeurs ?
Mais non, pas du tout, parce que la classe relais, si vous voulez, c'est difficile. Parce que les élèves sont souvent violents, ou alors sont dans une telle détresse que c'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais en revanche, on a quand même beaucoup moins de travail, moi, je trouve. Parce qu'évidemment, les corrections, avoir 12 copies une fois de temps en temps, ça n'a rien de comparable avec 4 classes de 25 élèves chacun. La préparation des cours, bon, ça, je le fais avec beaucoup de sérieux, mais j'ai quand même jamais qu'une classe.
C'est vous qui faites l'évaluation.
Oui.
Comment adaptez-vous un cours de lettres, un cours de français, donc un cours d'histoire-géographie à cette classe relais
pour l'histoire-géographie, j'ai décidé de faire uniquement le programme de 3e. Comme ça flatte beaucoup les élèves qui sont en 4e et j'ai pas le temps de faire et le programme de 4e et celui de 3e. Donc je traite uniquement de la Première Guerre mondiale à nos jours. En plus, c'est une période que les élèves adorent. Et alors ça, j'ai découvert tout un monde. Les élèves adorent l'histoire géo. Je savais pas, hein, moi, j'ai enseigné jamais que les lettres avant. Et cet ancrage dans la réalité, ça leur plaît énormément. Donc ce que je fais, c'est que je leur propose un cours abrégé avec des documents et puis des questions qui portent sur les documents, des photos, des... Voilà.
Vous feriez différemment dans un autre établissement ?
Bien sûr, parce que dans un établissement classique, si j'étais prof d'histoire, je passerais beaucoup plus de temps sur la leçon, je détaillerais. Mais là, c'est différent parce qu'il faut réussir à fixer l'attention des élèves. Et comme leur attention, elle est très fragile et elle est très volatile, il faut quand même faire un cours un petit peu condensé.
Donc ça exige aussi d'avoir des matériaux peut-être un peu plus nombreux sous la main pour chaque fois relancer leur attention.
Oui, en histoire, du visuel, j'utilise beaucoup de documents, alors beaucoup de cartes, des photos, qu'est-ce que ça peut être, des dessins, des affiches, enfin...
Quelles questions vous posent-ils en histoire, par exemple, en géographie ?
Alors moi j'ai été très 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 surprise quand même, la première année où je suis arrivée là, c'était le premier chapitre en histoire-géographie, c'était la Première Guerre mondiale. Et je leur ai demandé, alors entre 14 et 18, qu'est-ce qui s'est passé ? Silence. Pas un élève n'a su me dire ce qui s'était passé entre 1914 et 1918. Ceci étant dit, ça dépend des années parce que cette année ils savent. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu ahurie.
Et alors quand vous entrez dans le détail, c'est un événement qui leur paraît totalement étranger, auquel ils arrivent à s'identifier.
La Deuxième Guerre mondiale, ils connaissent. Ils connaissent beaucoup parce qu'ils ont vu beaucoup de films historiques, des choses comme ça. Alors, ils s'intéressent beaucoup au personnage d'Hitler. Ils sont assez fascinés par ce personnage-là. Alors, ils m'ont demandé s'il était mort, comment il était mort, est-ce qu'on était sûr qu'il était mort et il n'était sûrement pas mort. En fait, il se cachait quelque part. Ils ont développé tout un fantasme autour de ça.
Et ça, vous l'expliquez d'une manière ou d'une autre ou...
Bah, je leur explique de manière historique, mais ça ne leur plaît pas qu'Hitler soit mort. Eux, je ne sais pas, ce personnage du tyran, ça leur plaît beaucoup.
C'est quelque peu inquiétant, ce que
oui,
vous
un petit peu.
Une sorte de fascination pour la force, pour la...
Oui, ils aiment beaucoup Staline aussi.
Ah oui.
Oui. Ah oui, oui, l'idée de parti unique, de culte de la personnalité, ça les fascine aussi. Et puis, ce qui leur a plu également, c'était les conditions de vie des poilus pendant la Première Guerre mondiale. Ça les a assez fascinés aussi.
Donc plutôt l'histoire, j'allais dire, je ne sais pas si le terme est exact, l'histoire assez virile.
Virile,
les démocraties parlementaires, elles ne semblent pas très...
Je dirais virile,
pour cela.
Virile et spectaculaire en plus.
Oui. Vous y voyez l'image de la télévision, du...
Ils sont très contents.
Des jeux vidéo
Je ne sais pas, les jeux vidéo, la télévision en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont très contents quand ils retrouvent dans les cours d'histoire des éléments qu'ils ont vus à la télé.
Ah oui, voilà.
Oui, parce qu'ils sont un petit peu en terrain familier.
C'est ça. En français ?
Alors en français, j'ai, pour le début de l'année, j'ai construit une séquence que je fais depuis 3 ans et qui tourne autour du thème de l'adolescent. L'adolescent en révolte, donc il y a des témoignages d'adolescents réels, il y a des extraits de romans qui parlent d'adolescents difficiles, ça marche assez bien et puis j'en profite pour faire des rappels de grammaire. Rattaché au texte. Après, si un élève est en difficulté au sein de cette séquence-là que je fais pour tout le monde, je le prends à part en aide individualisée, puis on revient sur le point qu'il n'a pas compris. Et c'est vrai que ça, je ne pourrais pas le faire si j'étais avec une classe de 25 élèves.
Et leur niveau de langue est... Que diriez-vous ? Alors, ça moyen, va de catastrophique ?
Excellent à catastrophique.
Excellent.
Oui. Ah oui, oui. J'ai eu notamment un élève l'année dernière qui était exécrable, et vraiment je pèse mes mots, il était misogyne, violent, machiste, enfin vraiment horrible, mais c'était quelqu'un d'extrêmement fin et qui avait une maîtrise de la langue et une subtilité dans le choix des mots, un vocabulaire étendu, et ça, moi, ça me fascinait ça.
Alors c'est justement ce que vous contestez aussi, c'est le fait que on mette en classe relais des élèves qui sont violents. Et vous aimeriez plutôt avoir des élèves en difficulté.
Oui,
ce n'est pas la même chose.
On se dirige vers ça. Parce que les coordonnateurs de classe relais se sont beaucoup plaints auprès de l'inspection académique qui nous a entendus, qui a agi. Et cette année, ça a un petit peu changé, je dois dire. C'est peut-être pour ça qu'on a eu moins d'élèves proposés lors de la première commission. Parce que là, on a carrément rejeté les dossiers d'élèves violents ou difficiles. Parce que les classes relais ne sont pas là pour ça.
Vous avez votre mot à dire dans le choix de
maintenant, oui.
Des dossiers.
Maintenant, oui. Les deux premières années, non, parce que la commission donc, au cours de laquelle on choisissait les dossiers se passait à l'inspection académique, avec l'inspecteur d'académie, avec l'inspectrice à l'orientation, et c'était eux quand même qui choisissaient les dossiers. Et cette année, ça se passe dans les établissements, en petit comité, et c'est nous-mêmes qui choisissons ou rejetons les dossiers. Et pour le cas où on rejette un dossier, il faut... écrire un argument, quoi. Argumenter, dire pourquoi on a rejeté le dossier.
Combien en avez-vous rejeté ?
Un seul. On en a rejeté un parce que c'était un élève qui était décrit comme craint par ses camarades et qui sortait d'un conseil de discipline.
Là, c'est rédhibitoire.
Ah oui, oui, oui. Là, on a décidé qu'on ne prenait plus d'élèves sortant directement de conseil de discipline parce que ça donne un peu une image presque carcérale de la classe relais et c'est pas ça du tout.
Quelle est l'image de ces classes relais auprès des... Vous nous avez dit qu'il y avait très peu de candidats, de professeurs qui désiraient aller en classe relais. Au bout de 3 ans, quand vous en discutez avec vos collègues, quels sont leurs témoignages ? Quelle est leur vision des choses ? Est-ce qu'ils ont un petit peu évolué ?
Je ne trouve pas. Je ne trouve pas qu'ils aient évolué. Ils ont toujours une aussi mauvaise image de la classe relais. Et ils voient ça comme un
bagne.
Un endroit horrible, violent... C'est parfois le cas, mais en fait, il ne faut pas retenir que les épisodes de violence, parce qu'il y a aussi des moments merveilleux.
Mais quand vous dites « on ne prend plus de dossiers issus d'un conseil de discipline », ça veut bien dire que vous marquez une tonalité, vous marquez une orientation, oui aux élèves en difficulté, non aux élèves strictement violents. Et ça doit se savoir.
C'est encore récent. Donc je ne sais pas si la communication s'est parfaitement faite. Je crois qu'en ce qui concerne notre classe relais en particulier, ce qui a beaucoup dévalorisé son image, c'est aussi le local. Et bon, ça, je le comprends. C'est vrai que de notre collège de rattachement, certains enseignants, certains collègues ont vu le local et ont été quand même assez effrayés. C'est vrai que c'est effrayant. Il y a aussi une maman d'élève, que ça je raconte dans le livre, qui est arrivée avec son fils le jour de l'inscription, qui m'a dit « Écoutez, je suis un peu impressionnée, on dirait une poubelle. » Et c'est vrai qu'on dirait une grosse poubelle en tôle.
Bon, mais ça, bon. Plus pour longtemps.
Plus pour longtemps, parce qu'on déménage dans quelques semaines. Voilà.
Et vous savez déjà à quoi va ressembler votre nouveau local ?
Alors pas encore, j'ai pas encore visité, mais madame la principale m'a dit que c'était un vrai local, en dur, dans une vraie rue, près du centre-ville, et que ça, voilà, ça ressemblait plus du tout à une poubelle.
Ce qui change quand même évidemment les choses, hein, parce que
oui.
Pour la réinsertion, on imagine que l'environnement est tout à fait déterminant. Vos relations avec les parents sont-elles bonnes ? Vous nous avez dit que vous appeliez systématiquement les parents lorsqu'il y avait une absence, que l'élève... Même quand l'élève arrive en retard ?
Oui, c'est au-delà d'une demi-heure de retard,
on prévient
la famille. Les relations avec les parents, c'est très variable, hein, parce que ça dépend des individus, évidemment. Il y a différentes catégories de parents. Alors, il y a des parents qui sont charmants et qui collaborent autant qu'ils peuvent avec les enseignants, qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour être cohérents, en cohérence avec la parole des profs. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que c'était les enfants de ces parents-là qui s'en sortaient le mieux en général après la classe relais. Et puis, il y a d'autres, des parents qui sont complètement démissionnaires et complètement absents, enfin, qui sont un peu fantomatiques. Et puis, alors, il y a ceux qui soutiennent leur enfant. Coûte que coûte, qui disent « Oh, c'est pas pour le défendre, mais quand même... »
Très mauvais réflexe.
Ben oui, très mauvais réflexe, parce que là, c'est une faille dans laquelle l'élève, enfin l'enfant s'engouffre immédiatement.
Vous arrivez à leur parler, vous les voyez régulièrement, vous les voyez peut-être plus régulièrement que d'autres parents si vous étiez dans un autre établissement, ou bien vous essayez de maintenir une distance
On est plus proche, je trouve, des parents. Parce qu'évidemment, comme il y a moins d'élèves, il y a moins de parents, on les voit plus souvent et on noue des relations qui sont un peu plus personnelles. Moi, l'année dernière, il y a une maman d'élève qui m'a apporté un cadeau de mariage, puisque je me suis mariée l'année dernière en mai, et elle m'a amené des flûtes à champagne. J'ai trouvé ça vraiment très gentil. Ce ne serait pas arrivé, je pense, au collège classique. C'est parce qu'on avait fini par nouer des liens un peu proches, quoi, à force de se...
Donc ils viennent parfois
Oui, de temps en temps, ils viennent chercher leur enfant en voiture. Donc évidemment, on est là, on les voit, on discute un peu de l'enfant, un peu de tout, de rien. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir des relations aussi étroites.
Avez-vous des relations avec le voisinage?
Nous n'avons pas de voisinage.
Oui, c'est vrai, là, vous n'avez pas de voisinage. Dans
le
cas précis.
Le seul voisinage, c'est le squat et la déchetterie. Voilà, je suis désolée, hein, c'est déprimant, mais...
Quand vous aurez un voisinage,
oui.
Vous pensez, j'imagine que là aussi, il va y avoir certaines appréhensions à vaincre.
Quand on aura, oui, tout à fait, et puis quand on aura un voisinage, on aura un problème, c'est que je ne sais pas si dans ce nouveau local, qui apparemment est un rez-de-chaussée d'immeuble, on aura une cour de récréation. Parce que là, on a quand même un petit jardinet qui est autour du préfabriqué, ça permet aux élèves de s'ébattre et de se défouler, de jouer au foot éventuellement... entre les cours. Alors là, je ne sais pas où on va les faire sortir. À suivre.
Vous donnez du travail à la maison?
Oui, qui est très rarement fait. Ça, c'est une des choses qui me décourage un petit peu. Les élèves arrivent sans cahier de texte. Alors, je leur ai demandé cette année, mais pourquoi? Et ils m'ont dit, c'est la jeune fille qui m'a répondu, j'aime pas ça, ça m'angoisse. Voilà. Donc, elle a pris une feuille blanche, elle a noté ses devoirs quand même, et puis elle ne les a pas fait. Voilà.
Bon. Vous ne vous découragez pas quand même?
Non, je ne me décourage pas, mais ça, c'est une habitude de travail que je n'ai jamais réussi à donner à ces élèves en 3 ans. C'est l'un des échecs, je trouve.
Comme s'il, une fois sorti du cadre, il se retrouvait dans un autre état, soumis à d'autres lois.
De toute façon, c'est des élèves qui n'ont jamais eu de cahier de texte, a priori. Ce n'est pas pour rien s'ils se sont retrouvés en classe relais. C'est quand même qu'ils étaient très détachés du système classique.
Vous pensez pouvoir l'imposer un jour, ça, cette histoire du travail à la maison?
Mais j'espère, là je vais insister, mais bon, j'ai pas réussi encore, peut-être que ça va changer.
Est-ce qu'ils se pensent dans un avenir professionnel?
Oui, alors certains oui, et c'est ceux qui réussissent en général. Oui, il y en a qui ont déjà une idée très très ferme et très déterminée de ce qu'ils veulent faire. Donc c'est bien parce que pour les stages, du coup, ils sont ravis d'aller en stage. Hein. On a souvent eu des cas d'élèves qui vraiment étaient allergiques à l'école et détestaient ça. Ils étaient épouvantables, mais sitôt qu'ils se retrouvaient en stage, ils étaient absolument merveilleux.
Et parce que vous nouez des contacts avec des entreprises ou...
Alors ça dépend en fait. L'idée c'est quand même d'essayer d'autonomiser ses élèves au maximum, donc de faire en sorte qu'eux-mêmes dénichent leur propre stage. Et cette année, je dois dire que j'ai été émerveillée par les deux élèves qu'on a, parce que c'est des élèves qui, d'eux-mêmes, ont demandé la permission d'aller décrocher le téléphone à l'accueil, ont pris l'annuaire et ont appelé les entreprises pour savoir si ces entreprises les accepteraient en stage. Et à 14 ans, c'est quand même pas évident.
Et ça a marché ?
Et ça a marché. Ils se sont chacun trouvé un stage. Alors la jeune fille allait dans une école maternelle parce qu'elle veut s'occuper d'enfants. Et le garçon, lui, il est allé dans un garage. Voilà, il veut faire de la mécanique auto. Et je leur ai dit que je les admirais beaucoup hein, pour ça. C'est la première année qu'on a ce cas-là. Hein. Malheureusement, on a aussi eu des cas d'élèves qui non seulement ne s'intéressaient pas à l'école, mais n'avaient pas envie de faire de stage non plus. Bon, c'était un peu désespérant ça. C'était l'année dernière. Hein.
Vous diriez que ces élèves sont plus mûrs que les autres? Du fait peut-être de l'environnement de violence dans lequel ils vivent, ou bien au contraire qu'ils sont restés à un stade plus infantile?
Ça dépend des moments de leur vie. Moi, je trouve que dans certaines situations, ils sont plus mûrs que les autres. Notamment, ils ont une connaissance des choses pratiques. C'est des élèves qui sont très débrouillards. Ils savent prendre le RER, le métro, ils savent voyager. Il y a plein de choses. Alors, ils connaissent la justice très très bien, le procureur, le juge, tout ça, ils ont tout compris. Mais après, ils peuvent être extrêmement bébés sur d'autres choses. Hein. À quoi je pense ?
Les relations avec les filles, par exemple, c'est mixte ?
Oui, c'est mixte, oui, oui. Oh, ben, là, ils sont tout à fait aussi bébés que les autres. Là-dessus, ça ne change pas. Et je repense à un élève qu'on a eu il y a 3 ans, qui avait vraiment une stature colossale, qui était très grand, très costaud. Et puis, un jour, au moment de fermer la classe relais, son copain l'attendait, puis on ne le trouve plus. Alors, on le cherche, on se dit, il a dû partir. Et en fait, il s'était caché sous une table, il s'était roulé en boule, il avait plié en 15 sa grande carcasse, et il s'était caché. En fait, comme un petit garçon. Et qu'est-ce qu'il a pu rigoler en sortant de là ? En fait, il était tout content. Voilà, bon, c'est un petit accès de puérilité, c'était mignon.
On marque une troisième pause.
Canal Académie.
Sipora Petit-Jancert est notre invitée, l'invité d'éclairage qui se penche sur l'école de la dernière chance, un an en classe relais. C'est aux éditions Stock où vous faites partager votre expérience, vos témoignages. Vous avez reçu le prix Louis Cros, prix annuel destiné à récompenser une œuvre éditée ou un travail universitaire dans le domaine de l'éducation et de la formation. On a récompensé cette année donc un prix plutôt marqué par le sens du concret, le sens des réalités. J'ajoute que vous avez partagé ce prix avec François Muller, qui est professeur agrégé d'histoire et médiéviste archéologue de formation. Alors Sipora Petit-Jancert, on a beaucoup évidemment parlé de, et on va continuer à en parler, de ces classes relais. C'est un petit peu un monde à part dans l'éducation nationale, et c'est aussi peut-être sans doute pour cela que vous l'avez choisi, pour la vocation que cela représentait. Est-ce que vous avez déjà été inspecté ?
Jamais. Alors, ça fait 7 ans que j'enseigne, je n'ai jamais été inspectée. Ça ne me déplairait pas, parce que ça fait quand même un peu avancer la carrière. Mais je crois qu'être inspectée en classe relais, c'est quelque chose quand même de très délicat. Parce que c'est quand même un laboratoire, une classe relais. On essaye quelque chose sur le plan pédagogique, ça ne marche pas, alors ce n'est pas grave, on essaye autre chose. Voilà, ça permet ça, parce qu'on n'est pas lié par un programme, en fait, en classe relais. Il n'y a pas cette dictature-là des programmes. Donc, être inspecté, bon, c'est un petit peu difficile.
On ne saurait pas sur quoi vous inspectez, sur quels critères ?
Oui, c'est ça, parce que on n'a pas de programme imposé, en fait. Le mot d'ordre qu'on nous donne, même si officiellement c'est pas ça, mais officieusement, moi je l'entends quand même très clairement, c'est faites comme vous pouvez. Faites aussi bien que vous pouvez et faites comme vous pouvez. Alors, j'essaye quand même de, avec mon collègue, on essaye quand même de préparer les élèves au maximum au brevet des collèges. Parce que pour ceux qui sont en troisième, ils passeront quand même le brevet et ça leur fera quand même un diplôme. Donc, on essaye quand même de se tenir un petit peu au programme. Mais bon, après, c'est vrai qu'on avance beaucoup plus lentement que dans une classe ordinaire.
Alors que les élèves sont moins nombreux.
Alors que les élèves sont moins nombreux, c'est ça le paradoxe.
Quand vous dites moins lentement, c'est-à-dire beaucoup moins lentement ou bien vous arrivez
plus lentement,
à peu près
vous
à... Oui, simplement plus lentement, un petit peu plus lentement.
Ça dépend des années. La première année où j'étais là, on avançait un petit peu plus lentement, mais enfin quand même, on a vu des notions, des choses qui sont traitées aussi en classe banale. Et cette année, avec 2 élèves, on avance infiniment plus lentement.
Ça, c'est le paradoxe.
Oui, c'est le paradoxe, mais sur ces 2 élèves-là, on en a un qui a des difficultés de langue épouvantable. Alors à l'oral, il s'exprime avec beaucoup de fluidité et même d'élégance, mais le passage à l'écrit est extrêmement difficile et du coup ça génère des problèmes de comportement qui sont lourds. C'est un élève qui est hyperactif, comme un enfant de 4 ans pourrait l'être, sauf qu'il a 14 ans et qu'il est costaud et qu'il est grand. Et c'est vrai que c'est un peu le canaliser, c'est un petit peu épuisant. Donc du coup, on perd du temps et voilà.
Sur un programme fait à 100% dans une classe banale, combien faites-vous en lettres ou en géo ?
La première année, je dirais 70%. Bon, cette année, c'est juste le début, mais je crois
quand
que
même.
C'est... Oui. Oh oui, ce serait un comble quand même avec 8 élèves. Cette année, on n'est pas très bien parti, ceci dit, pour avancer dans le programme. Mais ce n'est pas grave parce que je suis en train de mettre en place des choses un petit peu plus atypiques. Alors, un atelier théâtre, un atelier d'écriture, des choses comme ça. La classe relais n'a pas tout à fait le même visage cette année que les années précédentes.
Une question peut-être un peu provocatrice. La classe relais n'est-elle pas finalement le modèle rêvé de l'éducation nationale ? C'est l'école sur mesure, c'est l'élève au centre des apprentissages.
Oui, mais c'est pas du tout rentable sur le plan financier, c'est
oui,
même une catastrophe.
Dans,
sur le plan
dans l'idée pédagogique, voilà.
Ah oui, bah oui, parce que c'est individualisé pratiquement en fait. Donc c'est dans le respect de chaque enfant, dans le respect du rythme d'apprentissage des élèves. Et c'est vrai que dans ce sens-là, oui, c'est une école rêvée, c'est vrai.
Mais tout à l'heure, il y avait un ton désabusé dans votre voix. Faites ce que vous pouvez. L'air de dire, nous on a baissé les bras, alors vraiment on vous les laisse. Hein.
Parce que jusqu'à l'année dernière, on recevait des élèves qui étaient très très difficiles. C'est pour ça qu'on vous a passé le message, faites comme vous pouvez. Et on a eu des cas même de violence telle que l'inspection académique a pris conscience qu'il y avait un problème. Parce que sur toutes les classes relais du département, ils ont été obligés de retirer quand même 10 à 15 élèves des classes relais et c'est énorme.
10 à 15 élèves pour les emmener où ?
Je sais pas, j'ai pas suivi parce que nous on nous a retiré juste un élève et c'est surtout dans d'autres classes relais qu'ils ont été vraiment obligés de décider qu'il fallait enlever ces élèves-là. Souvent on les envoie en centre éducatif fermé. Ça c'est des structures qui sont mises en place par le ministère de la Justice.
Là on change de registre.
C'est ça, voilà, ça n'a plus rien à voir. On change de registre, c'est pour les élèves qui sont déjà plongés dans la délinquance.
Vous êtes le dernier stade en fait, le dernier rempart avant.
C'est pour ça que j'ai appelé le livre l'école de la dernière chance.
Avant cette issue judiciaire. Il y a, vous avez suivi j'imagine de près ces événements, il y a eu il y a quelques semaines la crise des banlieues, alors je ne sais pas comment la qualifier, échauffourée, ethnique, religieuse, sociale, tous les termes ont été employés. Comment vous, est-ce que vous avez vécu cet événement ? Quelles sont les répercussions de cet événement sur une classe relais ?
Là, aucune pour le moment, parce qu'on n'a que 2 élèves. Donc vraiment, c'est particulier. Mais sinon, moi, cette crise-là dans les banlieues, il m'a semblé que c'était plus une crise identitaire. Je n'ai pas tellement eu l'impression que c'était lié à la religion, que c'était lié à l'immigration, aux origines. Non, c'était plutôt une crise sociale. J'ai trouvé et j'ai retrouvé chez les jeunes que j'ai vu interviewer à la télévision le même complexe social qu'avaient mes élèves de l'année dernière, par exemple. Et une vision extrêmement manichéenne et caricaturale des choses aussi, les méchants policiers et les gentils délinquants, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait ce côté-là.
Et alors vous, les policiers, ce sont vos amis ? Ce sont qui ?
On les voit pas beaucoup en fait. Les policiers, on n'a pas énormément de contact avec la justice, surtout que plus le temps passe et moins on a d'élèves qui sont délinquants, donc tant mieux. On a quand même vu les policiers il y a 3 ans, mais là on avait un cas particulièrement lourd. Là je m'exprime avec gravité parce que vraiment j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. C'était une jeune fille qui était totalement dépourvue d'affectivité. Je cite son cas dans le livre, et qui était d'une violence absolument ahurissante. Et puis surtout gratuite, et qui avait pas d'émotion, pas de sentiment. Et un jour, elle a agressé ma collègue de sport. Elle lui a lancé un coup de pied dans la cuisse, elle l'a poussée, elle lui a lancé du gravier dans le dos. Donc les aides éducateurs qui étaient là ont appelé les policiers. Ils sont arrivés à 5. Et à 5...
Ils ont le droit d'entrer dans l'établissement ?
Ils sont pas entrés dans l'établissement, en fait, ça s'est passé devant. Donc c'était dans la rue. Et à 5, ils n'ont pas réussi à maîtriser l'élève, qui était une jeune fille de 16 ans, tout à fait menue. À 5, ils ont eu vraiment les plus grandes difficultés. Ils ont fini par la plaquer au sol devant la classe relais, par lui enfoncer la tête dans le caniveau. Ils l'ont menottée, ils l'ont fait monter dans le fourgon. Et quand elle est arrivée en garde à vue, il y a 3 femmes policiers qui devaient la fouiller, vérifier qu'elle n'avait rien de dangereux sur elle. Et elle en a estropié 2 sur 3 quand même. Il y en avait une qui saignait du nez, l'autre avait le bras cassé et même la troisième avait souffrait de je ne sais plus. Voilà. Donc c'est la seule fois où on a vu la police dans la classe relais, mais ils se souviendront de nous, hein, je pense.
Le regard que portent les autres élèves sur ce type d'individu totalement incontrôlable ?
Au début, c'était leur copine. Ils disaient Anne-Julie, puisque je l'ai appelée Anne-Julie dans le livre. C'est notre copine. Ils sont un peu, ils sont solidaires à cet âge-là. Hein. C'est quand même un peu les enfants contre les adultes. Donc Anne-Julie, c'était leur copine. Et puis ils étaient un peu fascinés par cette absence de barrière, par cette violence qu'elle avait, pas aucune limite. Elle avait aucune limite. Ça les fascinait, puis ça les faisait rigoler aussi qu'elle défie à ce point-là l'autorité. En fait, elle faisait ce que eux n'osaient pas faire. Donc il trouvait ça tout à fait rigolo. Et puis au bout d'un moment, ça a basculé et elle est tombée dans une telle violence, dans une telle gratuité de la violence que eux-mêmes ont été très choqués en fait. Et le lendemain de cet incident avec ma collègue de sport qui a été agressée, il y a un des élèves qui a dit « Oh, la prof de sport, elle a pleuré, haha, qui a commencé à rire. » Et tous les autres lui ont dit « Mais attends, tais-toi, c'est grave, tais-toi maintenant. »
Et ses parents ?
Alors c'est une jeune fille, la maman n'était pas là. Les parents venaient de divorcer, la maman était retournée dans sa famille en province et le père était tout à fait complice de la jeune fille. Il a essayé de nous monter les uns contre les autres. Alors au début de l'année, il a confié à mon collègue de maths que ça se passait pas du tout bien avec moi, que j'étais pas une bonne enseignante. Et puis quelques mois après, il a fait l'inverse. Il m'a confié, vous savez, Anne-Julie, ça se passe pas bien avec le prof de maths. Hein, c'est pas un bon enseignant. Il était complice de sa fille. Quoi. C'était un personnage extrêmement trouble.
Quand un élève prend une telle tournure, j'imagine que sur de petits effectifs, les choses deviennent vite incontrôlables, vite ingérables.
Oui, mais d'ailleurs, c'est, là,
il n'y a même pas l'effet de groupe qui peut dissimuler ce type de personne.
Ça a été la seule fois en 3 ans où on a monté un conseil de discipline et on a dû exclure l'élève. Parce que là, elle était vraiment dangereuse, physiquement dangereuse, et pour ses camarades, et pour elle-même, et pour les adultes.
Quand vous rencontrez des directeurs, des professeurs d'établissement, des chefs d'établissement, vous entretenez de bonnes relations, vous arrivez à passer certains messages.
Très bonne, sauf une fois, alors une élève de 5e qu'on nous a envoyée, qui n'avait rien à faire là, parce que normalement on ne prend pas d'élèves de 5e, puisqu'on ne peut pas les orienter, ils sont trop jeunes, donc ça ne sert à rien de les mettre en classe relais. Et la principale du collège s'est vraiment débarrassée de cet élève, d'une manière que je trouve assez honteuse. Cet élève n'a été suivi par aucun adulte de son établissement d'origine parce qu'il ne voulait plus entendre parler d'elle. Donc là, c'est pas qu'on a eu des mauvaises relations avec la principale, mais c'est qu'on l'a pas vue du tout, quoi. Je trouve pas ça très responsable. Mais d'une manière générale, oui, on a des bonnes relations.
On compte sur vous.
Oui.
Ils y ont intérêt.
Pouvoir compter sur nous. Mais oui, parce qu'on est là soit pour soulager la classe d'un élément difficile, soit pour réparer un enfant, voire même...
Vous êtes leur respiration.
Les deux, oui.
Si pour un petit Jean-Serre, si vous deviez apporter, je ne sais pas moi, des innovations dans le domaine de l'enseignement, réfléchir à des nouvelles méthodes, quelle serait votre idée spontanément ? Quelle serait la première chose à faire ? Les conseils que vous donneriez ?
Ce à quoi je pense là spontanément, c'est l'ouverture du monde scolaire sur le monde professionnel. Je pense que ça vraiment dans tout type d'établissement, hein, que ce soit un établissement ZEP difficile ou que ce soit un établissement bon teint dans les beaux quartiers de Paris, je trouve que ce serait très très profitable pour les jeunes de, je sais pas, par exemple de recevoir des professionnels dans la classe.
Dès la 4e ou la 5e ?
Oui, 5e, ça fait peut-être un petit peu jeune, mais dès la 4e, de leur donner un aperçu du monde professionnel et une ouverture aussi.
Donc voilà une première idée qui manque.
Oui, et puis je dis ça d'autant plus que moi-même étant élève, j'aurais bien aimé ça.
Vous êtes élève ?
Quand j'étais élève.
Quand vous étiez élève.
Quand j'étais moi-même jeune fille. Oui,
il y a un désir de connaissance, un désir de soif, un désir extérieur.
Le monde scolaire, il est un peu recroquevillé sur lui-même, il est un petit peu fermé quand même. Et la classe relais, au contraire, c'est ouvert. C'est ouvert sur l'extérieur.
J'allais dire pour conclure, mais malheureusement, on est obligé de conclure. Quelle est l'image que vous voudriez laisser d'une classe relais à une personne qui ne connaît pas ce type d'établissement, et quel est votre meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir, c'est la beauté de certains élèves en train de travailler. C'est la beauté d'une tête penchée sur une feuille. Là, je pense alors à une anecdote précise qui est dans le livre. Un garçon, donc c'est le jeune Marocain dont je parlais tout à l'heure, qui était absolument adorable, vraiment pétri de difficultés parce que le français n'était pas sa langue maternelle et que de toute façon, même l'arabe, il ne l'écrivait pas. Il parlait bien l'arabe, mais il ne l'écrivait pas. Il avait beaucoup de difficultés. Et puis, vraiment, il a progressé de manière impressionnante au cours de l'année, même au milieu du bazar le plus total, quand ses camarades faisaient n'importe quoi. Lui, il luttait pour se concentré, hein, il voulait réussir. Moi, je trouvais ça très, très beau. Et puis, il y a une fois, à la fin de l'année, j'avais donné un brevet blanc aux élèves. Et puis, lui, il terminait sa conjugaison avec beaucoup de difficultés. Mais enfin, il l'a fini. Il a conjugué un verbe à l'imparfait. Je ne sais plus ce que c'était. Et j'ai dit, mais c'est bien, Ahmed. C'est bien, ta conjugaison, oui, elle est bonne, elle est réussie. Et il a levé son joli visage vers moi. J'ai trouvé qu'il était joli, vraiment, à ce moment-là. Il a dit, c'est grâce à vous, madame. Et ça, c'était vraiment beau. Et c'est un élève qui s'en est sorti grâce à la classe relais. Donc, parfois, ça marche.
Vous pensez les revoir après? Ou alors, on a complètement...
Non, on garde contact.
Fini, non, oui.
On garde contact avec ses enfants. Et elle, tout ça pour dire que le bilan est très contrasté, je trouve. Parce que pour certains élèves, ça ou rien, c'était pareil. Ça a servi absolument à rien. Et d'autres, ça leur a sauvé la vie.
Et c'est déjà ça, bien sûr. Même si ça sert à une minorité, c'est là que vous montrez tout l'intérêt de ce type d'institution. Merci beaucoup, Sipora Petit-Jancière, d'avoir témoigné sur notre antenne. Vous avez reçu le prix Louis Cros, prix de l'Académie des sciences morales et politiques, pour l'école de la dernière chance, un an en classe relais, aux éditions Stock. J'ajoute que vous êtes aussi écrivain, puisque vous avez publié récemment le Musée de la sirène aux éditions Stock. Un petit mot peut-être de cette fibre en littérature?
Oui, le musée de la sirène, bon, je peux vous en parler rapidement, alors juste pour vous présenter l'intrigue. On change totalement d'univers, hein, ça n'a plus rien à voir avec
l'évasion.
Avec la classe relais. C'est l'histoire d'une femme qui est professeure quand même, mais de peinture à domicile, de peinture, de dessin, qui traverse la rue, qui rentre dans le restaurant chinois qui est en face de chez elle, qui plonge la main dans l'aquarium où il y a plein de poissons et qui capture une petite sirène. Et cette petite sirène, elle la ramène chez elle, elle la met dans la baignoire et la cohabitation commence. Elle va devoir cohabiter avec cette sirène. Voilà.
Merci beaucoup.